Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa jeudi dernier après près de deux semaines à l'étranger où il a notamment participé au sommet des 20 pays les plus industrialisés au monde à Rome et à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat COP26 à Glasgow. Dans une déclaration en fait il y a quelques temps devant la diaspora congolaise à l'étranger, le président de la République déclarait que ses multiples voyages ne sont pas une source de dépenses. Bien au contraire, ils ont déjà ramené plus d'un milliard et demi de dollars à la RDC. Quelle analyse faire de la déclaration du chef de l'État au sujet de ses voyages? Nous en parlons ce soir avec Giscard Koussema, directeur adjoint de la communication présidentielle. Giscard Koussema, bonsoir.
Bonsoir madame.
Professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, Dépensigle. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Michel Bissa, professeur à l'université de Kinshasa, il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, c'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux, auditeurs des radios Capi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Emerine Zanzou. Ma question aux invités de ce soir, d'une manière concrète, quels sont les avantages que la RDC, notamment sa population, gagne dans tous ces voyages du chef de l'État? Patrick Lokola, depuis Mbujimayi au Kassai Oriental, à mon humble avis, les voyages effectués par le chef de l'État sont profitables du point de vue diplomatique, mais il y a un problème qui se pose, les déplacements d'un chef de l'État à l'étranger coûtent combien? Et si aujourd'hui on évalue plus de 115 voyages multipliés par autant de dollars, on aura combien des millions de dollars? Cet argent ne pourrait pas servir à autre chose pour les provinces. Mbujimayi, Kassai Oriental, vous nous suivez sur la 93.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa jeudi dernier après près de deux semaines à l'étranger où il a notamment participé au sommet de 20 pays les plus industrialisés au monde, G20 à Rome, et à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, COP26 à Glasgow. Dans une déclaration devant la diaspora congolaise, il y a quelque temps, le président déclarait que ses multiples voyages ont déjà ramené plus d'un milliard et demi de dollars au Congo. Une manière pour le président Tshisekedi de répondre à une certaine opinion qui estime que le voyage à l'étranger soit une source des dépenses publiques. On écoute un extrait de ce discours que nous propose Guy Maté.
Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo, tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là, je leur dis, on a déjà ramené plus d'un milliard et demi grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'un milliard et demi pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo.
Alors c'était là un extrait du chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant la diaspora congolaise à l'étranger jusqu'à Kusema. Vous êtes directeur adjoint de la communication présidentielle. Les voyages du chef de l'État, on en parle de plus en plus au sein de l'opinion congolaise. D'abord, quelle analyse vous faites de la déclaration du chef de l'État au sujet des voyages lorsqu'il dit par exemple que ces voyages rapportent beaucoup d'argent à la RDC?
Écoutez, madame, on ne peut pas aujourd'hui évaluer l'impact des voyages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans remonter les temps. Il vous souviendra, madame Kéline Kouté, qu'avant son avènement à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé un pays sans diplomatie, un pays isolé du monde entier, et un pays qui ne comptait presque plus dans les concerts des nations. Les autorités officielles étaient déclarées persona non grata si elles n'étaient pas elle-même sanctionnée. Donc, et aussi avec une économie exsangue, la République démocratique du Congo avait rompu pratiquement avec tous les partenaires traditionnels. Donc, il fallait porter la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Il fallait rétablir les relations tumultueuses avec tous les voisins. Rappelez-vous, avant son avènement, on parlait toujours de cette coalition ougando-rwando-angolo-burundaise contre la République démocratique du Congo. Donc, chacun des voyages du chef de l'État a un objectif précis, parce que tous les voyages n'ont pas le même objet, tous les voyages du chef de l'État ne s'inscrivent pas dans un même contexte, et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des voyages qui ont ramené beaucoup de choses au niveau de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC est heureuse d'avoir établi les relations avec tous ses voisins. Il y a au moins un cadre de concertation lorsqu'il y a un problème avec l'un ou l'autre pays. On sait aujourd'hui se voir, on sait parler en passe. Aujourd'hui, le leadership de la République démocratique du Congo a été imprimé au niveau sous-régional, au niveau africain et même au niveau international. Et donc, il est révolu le temps où on parlait du Congo sans les Congos. Il est révolu le temps où des personnes, des États se regroupaient sans qu'il y ait un officiel de la République, parce qu'il est soit sous sanction, soit qu'il est déclaré persona non grata. Voilà ce qu'on peut aujourd'hui avoir comme retombée, et le président de la République a raison de dire que tous ces voyages, ce n'est pas des moments de loisirs, loin de là.
Jusqu'à Kusema, on parle de plus de 100 voyages effectués en dehors du pays par le chef de l'État en presque 3 ans. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le plan financier, une idée sur le coût global ou l'enveloppe globale que le chef de l'État a ramené déjà au pays?
Mais écoutez, madame, il ne m'appartient pas de donner ici les coûts estimatifs des voyages du chef de l'État. Il y a des institutions qui sont là, allez-y au ministère des Finances, parce que les voyages du président de la République sont connus. Il y a des instances, les ordres de mission qui sont établis. Ça passe par la chaîne des dépenses. Il faut aller au ministère des Finances pour voir ça. Il faut aller au ministère du Budget, parce que c'est prévu, c'est budgétisé, madame.
Vous l'avez pas compris.
Nous n'allons pas nous lancer dans une polémique.
Vous l'avez
madame.
Pas compris ma question jusqu'à Kusema, s'il vous plaît.
Polémique des chiffres. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi de nous montrer un tableau qui reprend les 110 voyages, madame.
Jusqu'à Kusema.
Nous n'allons pas nous lancer dans cette polémique.
Jusqu'à Kusema, s'il vous plaît. Je crois que vous l'avez pas bien compris. Ma question, à ce jour, combien d'argent le président de la République a ramené au pays?
Madame, justement, je vous réponds. Les voyages du président de la République n'ont pas comme objectif premier de ramener des voyages. Vous n'avez pas vu des chefs de l'État ramener des valises dans des soutes d'avion. Tous les voyages n'ont pas le même objet. Il est vrai que le président de la République a ramené des retombées. Il y a des retombées positives en matière financière, comme ses retours de la coopération avec la Banque mondiale. Ça, c'est connu. Et dans 2 jours, le président de la Banque mondiale et le vice-président se rendent ici. On va encore les confirmer. Ça, c'est des résultats concrets. Mais tous les voyages, madame, ne visent pas à ramener au pays de l'argent. Vous ne verrez pas un chef d'État du monde ramener des valises d'argent par qui sont venus des voyages. Vous devez comprendre aussi que le voyage du chef de l'État peuvent être catégorisés, ok, en plusieurs genres, j'allais dire. Bon, il y a des voyages qui s'inscrivent dans les cadres de la participation du pays aux organisations auxquelles la RDC est un membre. Il y a la CIAC, il y a la East African Community, il y a la SADC, il y a l'Union africaine, il y a les Nations Unies. Vous n'allez pas demander au chef de l'État de ramener des valises d'argent de ces voyages-là. Il existe des visites d'État, madame.
Alors, parlons des retombées. Parlons des retombées.
À ramener des valises d'argent.
Parlons des retombées financières jusqu'à Kousséma. Il y a quelque temps, le chef de l'État, s'il vous plaît.
Tous les voyages du président de la République ne visent pas
vous l'avez déjà dit.
De l'argent au pays. Il
existe. Vous l'avez déjà dit, on a compris.
Le chef de l'État est allé faire déployer des plaidoyers qui ont donné des résultats probants, comme ce partenariat.
Vous l'avez dit jusqu'à Kousséma. On vous a très bien compris jusqu'à Kousséma. Parlons des retombées financières. Il y a quelque temps, le chef de l'État disait qu'il a ramené au pays 1,5 milliard de dollars. Cet argent était affecté à quoi?
Mais madame, vous vous rappellerez, il faut remettre chaque déclaration dans son contexte. Le président de la République a fait cette annonce-là aussitôt que les relations ont été, les partenariats ont été rétablis avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Et ça, c'est un fait réel, connu et vérifiable. Ce n'est pas parce qu'il a dit, pour cette fois-là, que toutes les fois, les chefs de l'État ramènent des valises d'argent.
Il y a un auditeur qui nous écrit depuis Kananga, au Kasaï central, sa question de savoir que va chercher le président Félix Tshisekedi à l'étranger. Il estime qu'on ne ressent pas les retombées dans les vécus quotidiens des Congolais.
Madame, je l'ai dit en début de cette émission qu'il faut remonter les temps. Où étaient les Congos avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parlait du Congo dans les conseils des concerts des nations? Est-ce que la République démocratique du Congo était éligible au niveau de l'Union africaine? Il a fallu attendre Félix Antoine Tshisekedi. Et ça, c'est le résultat de sa diplomatie agissante. Donc aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo compte. Je prends un exemple, madame.
Qu'est-ce
aujourd'hui,
que ça apporte le vécu des Congolais?
Il y a une préoccupation mondiale sur le réchauffement climatique. Et il est reconnu mondialement que la République démocratique du Congo est aujourd'hui, se présente comme le pays solution avec son bassin. Mais jamais, jamais un chef d'État de la République démocratique du Congo n'a participé au groupe de travail sur le climat. Et c'est la première fois que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo porte haut la voix de la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas une retombée. Les retombées ne doivent pas être toujours immédiates. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour s'aimer, il y aura un temps pour récolter, madame. Donc, le président de la République ne voudrait pas ici dire aux Congolais, voilà, parce que je vais et qu'au retour de mon voyage, le panier de la ménagère va changer. Non, il y a un moment où il faut construire.
En 2019, le chef de l'État avait annoncé l'arrivée de plusieurs investisseurs étrangers. Ça faisait partie des retombées de ses voyages en Allemagne, en Corée, en Belgique. Il avait annoncé l'arrivée des investisseurs. Jusqu'à ce jour, on attend toujours ces investisseurs. Est-ce qu'il y a, entre-temps, il y a eu un problème qui se posait jusqu'à
Madame, vous savez que dans un processus d'investissement, il y a plusieurs étapes, il y a des études. Si on vous dit aujourd'hui, voilà, je prends un investisseur, il arrive au Congo le lendemain, il sort tracteur et tout ça. Non, il y a des études qui se font, il y a des contacts qui se font et il y a un moment, et vous le savez bien, madame. Donc nous ne voulons pas jouer à la démagogie ici pour dire, voilà, le président de la République est rentré. Après, le lendemain, il a des investisseurs dans son avion et qui se mettent au travail. Il y a un temps, madame. Tout ça se prépare. Nous sommes dans cette phase-là et les résultats seront visibles, madame. Il faut rassurer les investisseurs. Il faut rétablir la paix. Il faut rétablir la confiance avec tous ses partenaires et pour créer toutes les conditions qu'il faut. Au plan interne, il y a des préalables qui ont été posés aujourd'hui. Les résultats sur la lutte contre la corruption sont visibles. Tout ça, c'est pour rassurer aussi les investisseurs.
Merci.
Qui doivent arriver.
Professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, en sigle. Quelle analyse vous faites de la déclaration du chef de l'État au sujet de ses voyages, lorsqu'il dit par exemple « Mes voyages ont ramené beaucoup d'argent au pays, ce n'est pas une partie des plaisirs, tous ces voyages que j'effectue », une manière un peu pour le chef de l'État de répondre à une certaine opinion qui estime que les voyages à l'étranger du chef de l'État sont une source des dépenses publiques. L'ODEP fait partie de ces gens-là qui pensent que c'est une source des dépenses publiques.
Madame, merci beaucoup de m'associer à ce débat. Vous savez, madame, les voyages du président procèdent d'une, ce que je peux appeler une vision erronée de ce que peut être le développement du Congo. Vous savez, pendant longtemps, dans nos universités, dans nos gouvernements, on nous a fait croire que notre sous-développement au Congo n'était qu'un retard dans notre croissance naturelle, mais que ce retard peut être rattrapé notamment par notre intégration dans le système mondial, dans le système capitaliste mondial, à travers le commerce international, à travers les mouvements des capitaux, à travers le transfert de l'Occident vers nous, des activités, etc. Madame, n'oubliez pas que cette politique-là, cette vision-là, a été longuement et abondamment pratiquée par le maréchal Mobutu, et vous savez vous-même ce que ça donnait comme résultat. Par après, le président Kabila Joseph a aussi pratiqué cela, vous savez ce que ça donnait comme résultat. Entre autres, les principaux résultats, cela a accentué, au contraire, la domination du Nord, des pays du Nord, vers nous. Parce qu'en fait, notre sous-développement, madame, c'est un sous-développement qui a été engendré et qui est le produit historique de la domination séculaire des pays occidentaux sur nous. Et les modèles qui consistent à aller encore les chercher pour les amener ici ne fait que perpétuer cette dépendance-là. Et ça s'est traduit, comme nous le savons, par la domination de notre pays à travers le système des prix, la domination par la transnationalisation des capitaux. L'économie mondiale est devenue un système surdéterminant dans lequel nous essayons de nous débattre. Mais ça, madame, ça ne peut jamais faire le développement du Congo.
Vous estimez que tous ces voyages du chef de l'État,
madame,
s'il vous plaît,
allons dans les fonds, allons dans la profondeur. Parce que ce n'est pas un problème de chiffres, comme dit monsieur là, ce n'est pas un problème de nombre de voyages, etc. C'est la vision même du développement, de penser qu'on peut se développer en continuant à s'intégrer dans un système mondial sans réfléchir, sans critiquer, et penser que même s'il ramenait 2 milliards, ça sert à quoi? Parce que le Congo n'a pas besoin de 2 milliards ni de 6 milliards. Le Congo a besoin de 20, 30 milliards, etc. Et ces milliards, madame, ne peuvent se produire que chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, en mettant en avant le peuple congolais. Le président, il a hérité d'un slogan que le papa Étienne développé, le peuple d'abord. Mais dans ce qu'il fait là, est-ce qu'il croit au peuple? Il faut croire au peuple congolais. Il faut croire au génie des Congolais. Il faut croire aux agriculteurs congolais, aux pêcheurs congolais, au lieu d'aller négocier l'achat des poissons dans quel pays d'Afrique, etc. Le président croit à une vision du développement erroné, dépassé et qui a échoué.
Alors, selon Giscard Koussema, directeur de communication adjoint à la présidence, les voyages du chef de l'État, ce n'est pas seulement pour amener de l'argent au pays. Il a fait allusion à la diplomatie. C'est quelque chose qu'il faut saluer quand même. Aujourd'hui, on parle de la RDC un peu partout, dans les grandes réunions. Est-ce que ça, ce n'est pas un point positif, professeur?
Madame, tant qu'on n'aura pas changé de vision du développement, vous savez, les marchés, il n'y a personne après lui qui avait mené dans les 10 premières années de son pouvoir le Congo dans le Conseil des Nations à un degré que lui il avait obtenu comme ça. Il n'y a aucun pays voisin ici qui jouait avec nous. Rappelez-vous qu'en 1968, il y a eu même un concours de Miss organisé à Kinshasa. En 68. Donc, mais cela a-t-il entraîné le développement pour le Congo? Je vais vous donner un petit exemple des pays environnants ici. Le Kenya, par exemple. Le Kenya vient de décrocher un accord avec le Royaume-Uni pour envoyer 20 000 infirmiers en formation là-bas. Ce sont des infirmiers qui vont toucher dans les 4 000 dollars par mois et tout ça. Mais cet accord, madame, il a été signé par l'ambassadeur du Kenya au Royaume-Uni. On n'a pas eu besoin que le président Uhuru Kenyatta se déplace parce que le voyage d'un président entraîne beaucoup de dépenses. On n'a pas eu besoin de ça. Donc, madame, le problème ici, c'est quoi? Le président de la République doit comprendre ceci. Doit comprendre que le développement ne peut avoir de sens que s'il renforce d'abord notre créativité sociale, n'est-ce pas? Le développement ne peut réussir que s'il est assumé par des populations pleinement conscientes de sa nécessité. Apté à agir, décidé à le faire. Cela veut dire qu'il faudra parier sur l'homme congolais,
si c'est possibilité, lui donner des raisons de vouloir aller de l'avant, de moduler même les innovations technologiques, sociales, politiques et culturelles, de sorte qu'elles soient assumées à chaque étape de ce développement par nos populations elles-mêmes, et vécues par elles comme un dépassement créateur et bénéfique. C'est comme ça qu'on fera le développement.
Est-ce que vous, madame, il y a quelques jours,
les États-Unis sont la première puissance agricole mondiale. Qui fait cette agriculture aux États-Unis? Ce sont les Chinois? Ce sont les Français? Ce sont les Américains eux-mêmes. Alors réfléchissons de quelle manière, dans nos universités et dans nos gouvernements, comment conceptualiser une économie dans laquelle les Congolais vont être les moteurs, les acteurs et les bénéficiaires du développement.
Alors professeur, vous estimez donc que ces multiples voyages du chef de l'État ne sont pas importants pour les développements de la RDC. Il y a quelques jours, s'il vous plaît, le porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Muyaya, annonçait, en parlant justement des retombées des voyages du chef de l'État, il annonçait que le chef de l'État a ramené environ 4 milliards de dollars, et avec cet argent, le gouvernement on va rester focus sur le programme de développement des 145 territoires présenté il y a quelques temps par le Premier ministre Samalou Kone.
Mais, je veux vous donner un exemple. Vous voyez la Chine qui est aujourd'hui une très grande puissance. À partir de 1948, après la révolution, ils ont fait combien de temps sans sortir de l'extérieur? Ils ont créé l'argent chez eux. Ils l'ont créé et ce qui a donné à la Chine la force de devenir après cette puissance qui est allée vers les autres, mais déjà avec un développement basé sur une agriculture forte par une industrie en amont, en avant de l'agriculture, mais grâce à la pensée des Chinois, grâce à leur énergie, etc. Madame, je reste convaincu que l'apport de l'Occident reste nécessaire. Nous pouvons voir avec ce qui est possible et ce qui n'est pas, mais d'abord, nous devons axer notre développement sur notre population.
Professeur Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, c'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Votre lecture sur cette polémique autour des voyages du chef de l'État?
Salut Jessica Koussema et mon collègue Florimond Moussema de l'Observatoire de la dette publique. J'ai suivi avec intérêt les avis des uns des autres. Mais ce que il faut d'abord noter est qu'effectivement, il faut voir la question de des voyages du président de la République de manière globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les limiter au niveau financier, au niveau de l'argent. Et là, peut-être que Giscard aurait pu avoir quelques arguments pour étendre ça là-bas, mais malheureusement pour lui, il a essayé de justifier cela par un passé, alors que ces données n'étaient pas totalement exactes. Ces voyages des chefs de l'État, il faut les observer au niveau des bénéfices symboliques, des bénéfices financiers, mais également des bénéfices au niveau diplomatique. Et je pense qu'il est plus dans cette approche-là. S'il s'agit effectivement des questions financières, je pense que c'est vraiment un gâchis parce que ce serait une vision exogène du développement. Le développement de ces pays ne doit pas attendre de l'extérieur. Nous devons nous développer selon nous-mêmes, selon notre entendement et avec nos moyens. Alors, s'agissant des voyages en soi, madame, lorsqu'un président de la République veut voyager, il faut savoir que d'abord, il y a une équipe des avant-coureurs, c'est-à-dire des agents qui vont aller préparer son voyage, des agents qui vont prendre des informations sécuritaires. On appelle cela la diplomatie secrète. C'est énormément de l'argent. Ensuite, le président de la République ne voyage pas seul. Il voyage toujours avec une grande équipe de ses experts, de ses agents de sécurité, des protocoles. Et donc, c'est énormément de l'argent que les contribuables publics voyagent dans un contexte où, il faut le noter, aujourd'hui, il est possible de participer à des réunions, à des colloques, à des conférences, à des activités politiques en virtuel. C'est-à-dire que d'ailleurs, ici chez nous au pays, le président préside les réunions du Conseil des ministres en ligne. Deuxième élément de lecture, madame, pour comparer le voyage du président de la République par rapport aux destinations. Jusque-là, le président de la République voyage essentiellement à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup de provinces de ce pays où il n'est pas allé. Quelle est la conséquence en termes de développement et la conséquence financière? Lorsque vous voyagez à l'extérieur, c'est-à-dire vous enrichissez les hôtels, vous enrichissez les restaurants, vous enrichissez l'économie de ce pays-là avec l'argent du contribuable local. Alors que si vous voyagez à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que vous y apportez des devises, des liquidités, mais également
les autorités locales des provinces, des communes et des territoires vont entretenir un certain nombre d'infrastructures locales pour recevoir un président de la République. Chaque fois quand une cité reçoit un président de la République, cette cité-là bénéficie de la circulation des moyens de l'argent. Entendu sous cet angle-là, je suis totalement d'accord avec le professeur Florimont que c'est vraiment une vision erronée du développement et de l'utilisation des deniers publics. On aurait dû conseiller. Mais maintenant, madame, j'ai publié un ouvrage intéressant intitulé « La vampirisation de l'État ». Qu'est-ce qui se passe derrière les voyages du chef de l'État? C'est entre autres les mauvais coaching de ses conseillers, collaborateurs, disons-le. Chacun, avec son dossier, tient que le président voyage dans le cadre du dossier qu'il traite, parce qu'il sait qu'il sera de la délégation, il sait qu'il aura des frais d'émission, il sait qu'il en aura. Donc, qu'on le veuille ou non, je pense que le président de la République paie bien, c'est important. Pour lui de voyager, pour des raisons diplomatiques, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de sécurité. Parce que, et jusqu'à ce que ça m'a semblé le dire un tout petit peu en des termes voilés, le véritable problème se pose également en termes de la légitimité. On cherche la légitimité où? Si on considérait que la légitimité, on la trouvera dans le Congo profond, le président de la République serait dans le Congo profond. Mais là, on voyage à l'extérieur du pays pour reprendre ce que Giscard Kousseh m'a dit lorsqu'il dit « Nous n'étions pas fréquentables, on n'était pas », c'est-à-dire que le président considère que c'est dans ce pays-là qu'il les aura. Et ça, c'est quand même, je pense que c'est une erreur grave dans ces éléments-là, parce que, madame, en termes de chiffres, le président a voyagé 31 fois en 11 mois. Et quand lorsqu'on fait des calculs, ça fait que dans les 3 ans de voyage, presque une année, notre président a passé à l'extérieur du pays. Ça doit cesser. Et puis de toi, madame, là, à l'international, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Ces gens-là, quand vous allez chez eux, ils ne viendront pas pour venir vous développer. Ils viendront pour venir chercher leur intérêt.
Vous estimez donc, professeur, que tous ces voyages du chef de l'État ne rapportent rien au pays?
En tout cas, dire que ça ne rapporte rien, je ne l'affirmerai pas. Je pense que si les places symboliques, parce que le président de la République a aussi une fonction symbolique. En tant que chef de l'État, il a le même titre que notre drapeau. Et lorsqu'on les voit dans un meeting, dans un forum, on a vu la République. Ça, il y a quand même un apport symbolique qui vient au pays, dans le sens que le pays est visible, nous sommes là. Mais j'ai dit que cet apport symbolique, on peut l'obtenir également à travers la participation virtuelle et numérique. C'est possible. Mais au niveau où ils sont en train d'aller, parce que et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ne font qu'évoquer l'aspect financier, l'aspect du développement. Et ça, j'ai dit, c'est une erreur d'approche. Et aussi bien du côté de ceux qui critiquent le président que de ceux qui l'appuient, les voyages du chef de l'État ne devraient pas aller chercher un développement à importer.
Merci.
Madame, regardez, si le président de la République devrait prendre cet argent dépensé dans des voyages, créer des petits contrats, des petits projets de 10 000 dollars, 5 000 dollars pour des jeunes, pour des mamans maraîchères, pour des agriculteurs qui plantent des tomates, des maïs. Vous savez ce qui représenterait l'équivalent de 5 000 dollars pour une maman maraîchère, pour quelqu'un qui plante des tomates? Alors que c'est en termes de millions, nous sommes en train de parler de millions, ceux qui auraient créé des millionnaires en francs congolais.
Merci professeur, on va vous redonner la parole, le temps pour nous de prendre ces nombreux auditeurs qui n'arrêtent pas d'appeler sur notre standard, ces auditeurs qui veulent donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. Giscard Kousema, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Likasi dans le Haut-Katanga.
Serge Chibangu, j'appelle depuis la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga. On en parle toujours, le voyage du chef de l'État, et ça fait débat dans la population. Pourquoi? Parce que aucun investisseur d'un domaine quelconque n'est venu investir. Alors, si le chef de l'État parle de plus d'un milliard et demi de dollars, mais qu'il soit clair, car je me pose des questions, à savoir... C'est un crédit à rembourser plus tard ou c'est un don? Et si tel est le cas, je parlerai de la croissance économique ou du budget de l'État. Alors, que fait cet argent si les enseignants n'ont pas repris les cours, la grève à l'ONATRA, le médecin et les infirmiers du secteur public, l'AMIBA en Mbujimayi, le militaire au front déplore la manière dont ils sont motivés. Certaines provinces n'ont pas de bâtiments administratifs. Alors, qui fait cet argent? Car nous, petit peuple, nous n'irons pas à la banque pour voir cet argent. Nous verrons cela en œuvre dans des actions de développement. Si pas, nous disons, c'est une manigance.
Giscard Koussema.
Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais, avant de répondre à Serge Chibango, lever l'équivoque sur certains propos qui ont été tenus par le professeur qui a pris la parole tout à l'heure. Mais c'est grave de la part d'un professeur de pouvoir tirer de telles affirmations. Le président de la République aura passé une année à l'étranger. Mais c'est sur quelle base, professeur, annoncez-vous ce genre de chiffres? Déjà, vous n'êtes pas en mesure de nous dresser une liste de pays que le chef aura fréquenté, ni de nous donner les noms de jours passés dans chaque pays pour qu'on en arrive là. Je pense qu'il y a une rhétorique qui a été développée comme ça simplement pour essayer de s'attirer une certaine faveur au niveau de l'opinion. Madame Mankouté, le président de la République, parce qu'on dit de lui qu'il aura passé une année, je ne sais pas sur quelle base, toutes les fois qu'il a été en mission, ok, il y va pour un objectif précis et connu. Je prends les tout derniers exemples, parce qu'il vient de Glasgow et Rome. Le chef de l'État est arrivé à Rome le vendredi 28 octobre. Il est parti de là le 31, au dimanche 31. Donc il aura passé 2 jours, là où le professeur ou le DEP en ont compté 5. Il en est de même de son séjour de Glasgow, alors que les travaux prennent 2 semaines. Le chef de l'État y a passé seulement 2 jours. Bien avant cela, lorsque le chef de l'État a initié une tournée africaine par rapport à son rôle de président de l'Union africaine en exercice, lorsqu'il s'est agi de désamorcer cette crise entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet du barrage, le chef de l'État n'aura passé qu'un seul jour dans chaque pays. Et donc, en 5 jours, le président de la République a fréquenté 5 États. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, il est allé pour un projet fédérateur de la ZECAF au niveau de la Zambie et en Ouganda. Il aura passé 5 jours, ok, pour les 5 pays.
Avec combien de personnes dans sa délégation?
Donc, cette histoire de dire qu'il aura passé une année, c'est fallacieux, donc c'est une fausse prémisse, et je pense que c'est sur base de cela que l'ODEP est allé publier des chiffres qui ne sont pas réels et qui aujourd'hui décrédibilisent cette prestigieuse institution. Pour revenir maintenant à la question posée par notre ami Serge Chibango de l'ICASI. Mais on n'a jamais dit, on le dira jamais assez ici, tous les voyages n'ont pas comme objectif de ramener des valises d'argent. Cette théorie, je ne voudrais pas ici engager un débat avec des professeurs sur la théorie de développement. Nous n'avons jamais dit, au niveau de la présidente de la République, le chef de l'État n'a jamais dit que tous ces voyages étaient des voyages de développement.
Serge Chibango veut avoir une précision. Cet argent, c'est un crédit, c'est un don, vous pouvez lui répondre?
Mais c'est à lui de dire de quel argent parle-t-on, parce qu'il y a plusieurs promesses, j'insiste. Le chef de l'État était à Doha, l'émir du Qatar a dit qu'il venait investir pour 1 milliard de dollars. Ça, c'est aussi une retombée.
Alors, Giscard Koussema, on a évoqué aussi cette affaire des délégations qui accompagnent le chef de l'État. Selon les renseignements que nous avons reçus, c'est pas moins de 60 personnes qui accompagnent le chef de l'État à chaque voyage. Est-ce que ça fait pas trop pour un pays qui connaît quand même des difficultés sur le plan financier avec des grèves ça et là? Plus de 60 personnes,
madame,
pour accompagner le chef de l'État.
Humeurs, nous sommes désolés. Donc, vos renseignements, vous les avez puisés peut-être dans la radio trottoir. Aujourd'hui,
alors vous êtes avec nous dans ce débat.
Vous ne verrez jamais un ordre de mission avec 60 personnes.
Combien, madame, de personnes à peu près? Combien de personnes à peu près jusqu'à? Combien de personnes à peu près accompagnent le chef de l'État?
Aujourd'hui, le président de la République, et je prends ces risques de le dire, La délégation officielle du chef de l'État est constituée de 12 à 13 personnes qui l'accompagnent dans son avion.
Merci, Fiscal.
Ça, vous pouvez vérifier. C'est 12 à 13 personnes. Mais d'où viennent ces 60 personnes? Il est vrai qu'aujourd'hui, la fonction du chef de l'État exige un certain nombre de préalables. Ça, c'est commun à tous les chefs d'État. Il y a cette exigence de sécurité. Mais de là à dire qu'il y a 60 personnes, c'est faux, madame. Aujourd'hui, le président de la République voyage avec une dizaine de personnes.
Merci.
12 à 13 personnes qui l'accompagnent et il y a presque le même nombre pour les services personnels.
Professeur Florimond Moutéba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud de Kivu.
Moi, c'est Gabriel Ekualang, depuis Bukavu au sud de Kivu. Le chef de l'État ne fait que se défendre devant ses militants de l'IDPS qui ne sont que des suiveurs. Mais un Congolais rationnel ne peut pas croire à ce genre de discours. Dire que ces voyages ont déjà apporté plus d'un milliard de dollars, c'est nous tromper, car cet argent n'est qu'un crédit dont la République remboursera après. Ces voyages ne font que justement perdre l'argent du contribuable congolais en laissant le pays en train de sombrer dans la misère. On pourrait comprendre si le chef de l'État organisait ces voyages à l'intérêt du pays, parce qu'en circulant, au moins dans le pays, il allait s'enquérir des réalités de ses concitoyens.
Professeur Moutéba, brève réaction. Cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse tout à l'heure.
Vous savez, le président de la République, il est originaire du Kasaï. Après 3 ans, le président n'a jamais mis les pieds ni à Kananga, ni à Mbujimayi, ni à Tshikapa, ni à Olomani. Le président de la République, s'il avait fait, comme disait l'intervenant de tout à l'heure, 1000 voyages dans les 26 provinces, en tout cas, nous serions, nous, par exemple, à l'ODEP, les premiers à l'applaudir. Il n'est jamais marié, même à Tikwit ici. Et donc, vous comprenez qu'il affirme sa conviction que le développement du Congo viendra de l'extérieur. Alors que c'est impossible. Hein? Parce que s'il croyait à un développement, comme ils aiment bien dire à l'UDPS, les peuples d'abord. Mais les peuples d'abord, c'est qui? Les peuples d'abord, ce sont tous ces paysans dans nos campagnes qui ont besoin. Vous savez, qu'est-ce qui est donné comme budget à l'agriculture, madame? Toutes nos analyses dans l'exécution des lois de finances de chaque année, c'est à peine si le secteur agricole arrive à 50 millions. Mais vous imaginez, alors que nous avons un plan, nous avons un programme de développement agricole qui exige que chaque année, nous puissions dégager 900 millions de dollars pour ça. Mais on n'arrive même pas à 50 millions. Vous voyez le premier ministre Samuel Koundé, les autres ministres, il y a des voyages qu'ils peuvent faire à l'extérieur. S'il le faut aller à l'extérieur. Nos ambassadeurs dans les relations diplomatiques, ils servent à quoi? Donc vous comprenez que, vous savez, c'est vrai, les chiffres sont les chiffres. Moi, dans ce débat, je n'ai pas voulu m'appesantir sur les chiffres, je m'appesantis sur la vision. Parce que même si donc le président était assis, mais que la vision reste cette vision de penser que c'est l'Occident qui va faire notre développement, c'est la Chine qui va faire notre développement, ce sont les États-Unis qui vont faire notre développement, faux et archi-faux.
C'est une vision erronée selon vous. Merci professeur Florimond Moutéba. Ouais. Professeur Michel Bissa, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Tambweka Songo Kaselesele depuis la ville de Beni au Nord Kivu. La population congolaise n'a plus besoin de discours qui ne reflètent pas la réalité parce que depuis que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé ses voyages, la population n'a rien encore profité jusque-là. Le chef de l'État est parti au Rwanda pour nouer des relations avec eux, mais depuis ces jours, nous observons que ces pays continuent à faire toujours des menaces à la République démocratique du Congo. Il était parti à l'Ouganda pour le projet d'asphaltage de la route Kasindi-Beni-Butembo, Butembo-Beni qui pourrait être exécuté dans 45 jours après cette consultation, mais jusque-là, rien n'est pas encore fait. Nous osons croire que le chef de l'État a déjà beaucoup voyagé. Il est temps maintenant qu'il puisse rester dans son pays pour voir comment il peut résoudre les multiples défis auxquels nous faisons face, car la RDC a beaucoup de ressources et plusieurs richesses qui nous pouvons en bénéficier sans faire beaucoup de voyages. Merci.
Brève réaction, professeur Michel Bissard.
Merci beaucoup, madame. D'abord, je voudrais apaiser mon ami Giscard Koussema pour lui dire que nous ne sommes pas contre le chef de l'État. D'ailleurs, nous sommes tous conseillers d'une façon ou d'une autre. Et lorsque nous sommes loin de lui, notre seule manière de lui faire parvenir nos points de vue, c'est notamment à travers la radio Capi, la radio de la paix. Et donc, madame, vous avez suivi la réaction de tous ceux qui sont intervenus en dehors de nous. Giscard aurait pu comprendre que c'est un point de vue qui est partagé par la majorité de la population. Oui, évitons cette histoire-là. Je l'avais dit, le chef d'État a un rôle symbolique. Il est comme notre drapeau. Et à ce titre-là, il est important que notre drapeau soit partout. Et je ne suis pas d'accord que s'il soit physiquement partout, il peut l'être virtuellement. Prenez madame. Vous regardez par exemple que le chef de l'État a visité tous les pays voisins de la RDC, sauf le Soudan du Sud. Mais imaginez-vous un seul instant s'il s'était dit par exemple que pour aller au Rwanda, il va passer par Bukavu, entrer par Kamembe, ou il va passer par Goma, entrer par Gisenyi. Ou en allant ou en Angola, qu'il passerait par le Congo central, il visiterait, il entrerait. Tous ces pays voisins, huit, nous avons des frontières, et le chef de l'État, il lui est arrivé de visiter un pays, une ville frontalière, sans passer par la partie frontalière du côté de son pays. Pour la question que je viens de recevoir de notre auditeur, qu'il sache que le problème n'est pas tant dans les voyages, mais dans la manière de faire ce voyage. C'est-à-dire quoi en réalité? Il est bon que le président voyage à l'intérieur du pays. Nous avons besoin d'un président, pas du bureau, mais un président du terrain. Mais ce terrain-là ne doit pas être un terrain occidental, oriental, un pays, un terrain étranger. Nous avons besoin de voir notre président. Il n'est pas que le président de Giscard Kouféma, il n'est pas que le président de l'IDPS, il est le nôtre, tous les Congolais, et nous avons besoin d'entendre qu'il était à Idjoui, qu'il était à Kabé, à Kamwanga, qu'il était à Bulungu, qu'il était à Kiyoko, qu'il est passé dans tel contrée à Bumba, c'est ce que nous voulons.
Merci.
Parce que nous savons que lorsqu'il descend là, ça peut marcher. De deux, l'argent qui est dépensé pour payer des frais d'émission autour pour des gens, jusqu'à vous a parlé de 13 à 14 personnes plus les agents civils, ce budget-là peut bien servir à l'intérieur du pays où 1000 dollars vaut encore une fortune et peuvent conduire à produire autant de tomates, autant de pommes de terre que d'aller les vendre ailleurs. Notre président a autant voyagé. Combien avons-nous reçu des étrangers chefs d'État chez nous? La diplomatie, c'est aussi la réciprocité. Nous, nous allons chez eux, nous dépensons l'argent dans leurs hôtels, dans leurs restaurants et tout. Quelle est-ce que des étrangers aussi viennent chez nous pour la même chose? Jusque-là, l'équivalence n'est pas totalement établie.
Nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous demander vraiment d'être bref dans vos conclusions. Giscard Kouséma, directeur adjoint de la communication présidentielle, vous avez suivi les réactions des auditeurs, des intervenants, le chef de l'État. On le voit moins dans les provinces de la RDC. Sur 26 provinces, en 3 ans, il a à peine visité 5 provinces. Est-ce un choix qu'il a fait?
Madame, le chef de l'État a fait le choix de la gouvernance de proximité. Donc, en étant au pays, il est en contact permanent avec le gouvernement provincial, ce qui fait que toutes les fois qu'il y a un problème qui se pose dans tel ou tel autre point du pays, il agit même s'il ne vient pas physiquement. Ça, c'est d'un des deux, madame. Il faut retenir ici qu'il y a beaucoup de fausses informations qui ont été distillées à travers des structures comme le DEP sur le voyage, les coûts financiers de déplacement à l'extérieur du chef de l'État. Et nous avons démontré ici que c'était des faux chiffres et nous mettons au défi de nous montrer la liste de ces 107 centaines de pays visités et de ces je ne sais combien de millions de dollars dépensés ou des délégations qui ont accompagné les chefs de l'État. Et nous voulons aussi dire ici que la fonction du chef de l'État aujourd'hui et surtout son leadership au niveau africain et même international fait de lui le porte-voix du pays et du continent et que toutes les fois où, quels que soient les coins du pays, du monde où l'on doit parler de la République démocratique Congo, il est le premier diplomate, il est normal qu'il arrive par devoir d'État pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo.
Merci.
Parce que la refondation de la République démocratique du Congo commence dans d'abord par un dialogue, par un contact direct avec tous les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Et donc, toutes
merci.
Les fois que le devoir l'appellera, il répondra au nom de la République démocratique du Congo, au nom de l'Afrique et pour le bien de la population congolaise.
Merci Giscard Koussema. Professeur Mouteba, votre conclusion.
D'abord, mon ami, les conseillers Giscard, vous savez, moi, je laisse, en tant que président de l'ODEP, je laisse à l'opinion nationale et internationale les soins de juger le travail de l'ODEP. Vous savez...
professeur, il faut conclure. Il faut conclure, professeur.
Vous savez que Vital Kamerhe est en prison. Comment? C'est pas les rapports de l'ODEP. Vous le savez bien. Alors, ne dites pas du mal de l'ODEP. Je pense que ça, c'est vraiment l'erreur que vous êtes en train de commettre. Alors, pour ma conclusion, c'est quoi? Le développement, madame, et je dis ça à toute la population, le développement est avant tout populaire. Il est national et il est pro-pauvre. Et c'est ça que tous les auditeurs nous ont fait entendre. Et même mon collègue de l'université de Kinshasa. Et donc, les gens qui sont autour du président, ce que nous vous demandons, c'est quoi? Donnons-lui des bons conseils. Ne défendez pas l'indéfendable. Nous allons bientôt publier un rapport dans lequel nous avons repris, nous avons évalué toutes les recommandations que nous avons faites. Combien ont été prises en compte? Parce que nous, on ne critique pas seulement, on fait des recommandations.
Merci.
Vous verrez que sur 100, il y a peut-être 2 ou 3 qu'on a prises en compte. Et le reste, si vous, là-bas à la présidence, vous preniez ces rapports, vous les regardez en profondeur, vous voyez les recommandations que nous faisons pour que il y ait des réformes, pour qu'il y ait de nouvelles politiques publiques. Si vous les faisiez, vous n'en serez pas là aujourd'hui.
Merci, professeur Mouteba. Professeur Michel Bissa, 30 secondes pour conclure.
Merci, madame. Pour conclure, j'ai dit ceci, la vision exogène du développement ne va pas aider le pays. Il faut que nous ayons une vision endogène. Le développement du Congo viendra des Congolais selon les spécificités et réalités du Congo. Le conseiller Giscard doit savoir que la gouvernance de proximité ne passe pas nécessairement par l'intermédiaire des gouverneurs. C'est là qu'ils induisent le chef de l'État en erreur. Il doit être en contact direct avec la population. Que M. Giscard sache que le chef de l'État est aussi le président de la République et il est aussi le garant de la nation.
Merci, dans professeur Michel.
Comme tu penses que c'est la même chose.
Merci, professeur Bissa.
Il faut apprendre à différencier.
Merci, professeur Bissa. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à présenter, à préparer cette émission. Dona Madimba, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.